Panorama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui plongé dans les guerres d'Italie. Nous sommes au début du XVIe siècle avec la bataille de Ravenne du 11 avril 1512. Au printemps 1512, les guerres d'Italie font rage depuis près de 20 ans. La quatrième séquence de ce long conflit s'étend de 1508 à 1513. Les troupes françaises, conduites par Gaston de Foix, duc de Nemours et neveu du roi Louis XII, âgé de seulement 23 ans, mènent une campagne foudroyante en Romagne, où elles bousculent l'armée hispano-pontificale. Après avoir levé le siège de Bologne, investi par les soldats du souverain pontife, les Français reprennent Brescia aux Vénitiens. Ils sont désormais devant les murs de Ravenne. Cependant, le temps joue maintenant contre eux. En effet, de forts contingents helvétiques et vénitiens s'apprêtent à envahir le Milanais. Ils pourraient renverser la situation stratégique. C'est pourquoi Gaston de Foix, surnommé le Foudre d'Italie, souhaite brusquer l'affrontement. Le 9 avril 1512, l'artillerie française, commandée par le duc de Ferrare, Alfonso Ier d'Est, bombarde les puissantes murailles de Ravenne. Un assaut est tenté sans succès. Le lendemain, Ramon de Cardona, vice-roi de Naples, arrive en vue de la cité. Sur les conseils de son ingénieur militaire, Pedro Navarro, il installe son camp en rase campagne et refuse prudemment tout engagement. Les Espagnols, numériquement inférieurs, préfèrent intimider les troupes françaises prises entre deux feux. Pour Gaston de Foix, il n'est plus question d'attaquer Ravenne puisque les forces ibériques sont susceptibles d'intervenir à tout moment. L'alternative est simple, se résigner à une retraite périlleuse et peu glorieuse ou tenter un ultime combat. En ce dimanche de Pâques, 11 avril, les capitaines français décident de suivre la détermination de leur chef. Un pont de fortune est alors édifié pour permettre à l'armée de franchir le Ranco, ruisseau qui sépare le camp français de celui des Espagnols. Avec 12 000 cavaliers, 19 000 fantassins et une puissante artillerie, c'est un impressionnant convoi qui s'ébranle. En attendant que ses troupes se mettent en ordre, Gaston de Foix part s'ébattre le long du cours d'eau avec quelques-uns de ses proches, dont le célèbre chevalier Bayard. Il ne tarde pas à croiser des chevaliers espagnols qui le saluent humblement. Chevaleresque, Gaston de Foix leur propose de substituer à la bataille qui se profile un duel entre lui et le vice-roi de Naples. Cette proposition reste sans réponse. Gaston de Foix rejoint ses hommes qui commencent à prendre position. En moins d'une journée, Pedro Navarro a établi des fortifications sommaires adossées au Ranco qui protège ses arrières. Il fait creuser un fossé en arc de cercle devant le campement espagnol. Sur la bordure sont alignés des chariots abondamment garnis d'artillerie et hérissés de piques. Ils comportent une vingtaine de petits canons et 200 arquebuses. Toute l'infanterie ibérique s'est massée derrière ce redoutable dispositif défensif. Les Français souffrent énormément durant la manœuvre d'approche. Exposés au feu constant de l'artillerie espagnole, ils perdent près de 2000 hommes. Gaston de Foix a alors l'idée d'un mouvement tactique inédit. Il fait déplacer les canons situés sur son aile droite pour les remettre en batterie à l'extrémité de son aile opposée, où ils pourront prendre en enfilade les cavaliers espagnols. Parallèlement, deux autres pièces d'artillerie sont positionnées sur l'autre rive du Ranco. L'affolement s'empare des rangs ibériques qui subissent des pertes importantes. Un seul boulet aurait fauché pas moins de 33 soldats espagnols. Sans attendre les ordres, les chevaliers espagnols jaillissent des retranchements et chargent les troupes françaises. C'est aussitôt le choc fracassant de deux cavaleries qui rivalisent de prouesse. La supériorité française est bien vite écrasante. Elle profite à l'infanterie de Gaston de Foix, surtout constituée par des contingents gascons et germaniques, qui se lancent à l'assaut du camp. Il s'ensuit une mêlée sanglante. Toutefois, les piquiers allemands ne peuvent s'emparer du retranchement espagnol et subissent de lourdes pertes. Finalement, c'est un nouveau mouvement tactique de Gaston de Foix qui dénoue la situation. Après avoir dispersé la cavalerie ennemie, les chevaliers français opèrent un vaste déplacement pour attaquer l'infanterie espagnole à revers. Ils la détruisent en grande partie. La bataille est quasiment gagnée. L'armée hispano-pontificale est en déroute. Pedro Navarro est capturé. Ferdinand d'Espagne refusant de payer sa rançon, il passera bientôt au service du roi de France. Ramon de Cardona s'est enfui sans combattre. Les Français exterminent la piétaille désorganisée. Le chevalier Bayard croise alors Gaston de Foix, tout plein de sang et de cervelle d'un de ses hommes d'armes qui avait été emporté par une pièce d'artillerie. Inquiet, il lui demande s'il est blessé. « Non, Dieu merci, mais j'en ai blessé d'autres », réplique le jeune stratège triomphant. Le chevalier Bayard lui recommande d'arrêter le combat pendant que l'artillerie française nettoie le terrain de l'affrontement, mais Gaston de Foix, tout à l'excitation du combat, ne l'entend pas et il se lance à la poursuite des ultimes bandes espagnoles qui se replient en direction de Ravenne. Bien mal lui en prend, son destrier s'empale sur les pics des fantassins, il tombe à terre et est aussitôt massacré par les Espagnols en déroute. Les derniers engagements s'achèvent en toute fin d'après-midi. Si les troupes de la Sainte Ligue sont anéanties, les Français ont subi des pertes très sévères. Les survivants portent le deuil de Gaston de Foix. Ils élisent pour chef un soldat chevronné, Jacques de Chabannes, seigneur de la Palisse, qui entame des négociations pour la reddition de Ravenne. Alors même qu'un accord semble conclu, des fantassins en maraude profitent de la nuit pour s'infiltrer dans la cité qu'ils mettent à sac. En bout de compte, la prodigieuse victoire tactique remportée par Gaston de Foix restera inexploitée. Personne ne tirera les leçons de cette guerre de mouvements extrêmement rapides où la cavalerie lourde, l'infanterie et l'artillerie sont parfaitement complémentaires. Nous nous retrouvons dans un instant pour la chronique « Un jour, trois livres », la chronique littéraire de l'émission Historama. Mais avant cela, détour par la chanson avec Idir, qui nous a quittés durant la période du confinement. Son album « Deux rives, un rêve », nous écoutons Tizi Ouzou, reprise de San Francisco de Maxime Le Forestier.
Yeah. ذا قديم نقايس القرار نتزور وثغار نبقى مع الطار ويدي في زدغان ضقرا في سورا بلي دو شفلون دو جران لي دو موزيك بلي دو لميير بلي دو فو لا ميزون بربر ما زالت دبو
C'était Idir qui chantait la cause du peuple kabyle avec Tizi Ouzou, cette reprise de San Francisco de Maxime Le Forestier. Vous écoutez Historama. La chronique littéraire, un jour, trois livres, ce sera un livre aujourd'hui, un livre tout à fait remarquable, publié il y a quelques mois dans la collection Texto aux éditions Talendier, « Lettres de Drancy », texte réuni et présenté par Antoine Sabag. Drancy, c'est le camp de concentration où les Juifs de France sont rassemblés non loin de Paris et à partir de 1941, c'est surtout là que les Juifs qui ont été fauchés par la grande rafle du Veldiv vont être regroupés et ce sont 130 lettres qui sont proposées dans ce merveilleux ouvrage très poignant, 130 lettres qui permettent de mieux comprendre le quotidien de ces déportés. Alors j'en ai sélectionné une pour vous, la lettre que Sarah Kurtz envoie à son frère Jean depuis Drancy le 31 octobre 1942. Je précise que Sarah Kurtz est née à Odessa, en Russie, le 15 décembre 1899, qu'elle habite Vitry-Châtillon en Seine et Oise, et qu'elle est victime de la rafle déclenchée les 9 et 10 octobre 1942 en zone occupée. Elle a été internée à Drancy le 28 octobre en compagnie de son frère Raymond, et tous deux sont déportés à Auschwitz par le convoi numéro 44 du 9 novembre qui comptera en 1945 seulement 15 survivants sur environ 1200 déportés. Ces derniers comprenaient, outre des juifs d'Île-de-France, environ 800 juifs grecs arrêtés le 5 novembre précédent. Chers frères, sœurs et nièces, j'espère que tu as reçu, Jean, les deux lettres de Valenton. Je suis à Drancy depuis 3 jours avec Raymond. J'ai été ramassé chez moi lundi matin, comme tous dans la Seine-et-Oise, mais j'ai bon moral et je suis très courageuse. Je veux, chers Jean et Nina, si cela ne vous ennuie pas, que vous m'envoyez un peu de pain pour Raymond, quelques pommes de terre cuites en robe de chambre, un peu de viande bien cuite ou des œufs pour mon petit bonhomme, un morceau de toile blanche. Tu sais que tu es père, tu comprendras qu'en frère aîné, ton devoir est de demander à la famille, non pas pour moi, mais toi, occupe-toi rien que pour Raymond. Je te rendrai un jour tout ça. Toi et Nina, vous avez Betty, tu la gâtes. Alors pense un peu à Raymond, je sais que tu es bon de cœur et que tu le feras. Dis à Bickele qu'elle aille chercher mon sac rouge à réparer que j'ai donné 4 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris, ainsi que mes affaires chez Lacasne. Qu'elle fasse un tour à Viry, je me renseigne. Pour Marcel, avertissez Léonie, Oscar et Fanny s'ils peuvent m'envoyer un colis chez moi et toi, tu me l'enverras à ton tour. As-tu, Jean, des nouvelles pour moi ? Ne refuse pas, mon cher frère, ce que je te demande car tu es le seul de la famille sur qui je peux compter. Tu vois ma chance, mon mari, moi et mon fils, mais je veux supporter pour mon gosse qu'on ne le sépare pas de moi. Jean, alors, pour mon petit bonhomme, j'ai le droit à une lettre tous les 15 jours, mais attendez la réponse, attendez la lettre pour la réponse. Bon baiser, Sarah. Voilà pour cette illustration de cette correspondance poignante qui est celle des détenus du camp de Drancy. Il y en a 130 de la même veine à travers ce livre, Lettres de Drancy, réuni et présenté par Antoine Sabac. C'est publié aux éditions Talendier dans la collection Texto et je vous le recommande tout particulièrement. C'est un livre d'une rare intensité. Voilà, s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas de l'avoir réalisée. C'est en chanson que nous allons nous quitter, toujours avec Idir, la voix du peuple kabyle, son album « Deux rives, un rêve ». Nous écoutons « Tewizi ».